Alors, je vais commencer avec vous ce matin par une histoire. C'est l'histoire d'un professeur universitaire qui défia ses étudiants avec cette question. Dieu a-t-il créé tout ce qui existe ? Un étudiant a bravement répondu : oui, il l'a fait. Le professeur dit alors : Dieu a tout créé ? Oui, monsieur, répliqua l'étudiant. Si Dieu a tout créé, il a donc aussi créé le mal, puisque le mal existe et selon le principe de nos travaux qui définissent ce que nous sommes, alors Dieu est mauvais, répondit le professeur. L'étudiant resta silencieux devant une telle réponse. Le professeur, heureux de lui-même, se vantait aux étudiants qu'il avait prouvé encore une fois que la foi était un mythe. Un autre étudiant leva alors la main et dit « Puis-je vous poser une question, professeur ?»« Bien sûr, répondit le professeur. » L'étudiant répliqua « Professeur, le froid existe-t-il ? » « Quel genre de question est cela ? » « Bien sûr qu'il existe. Vous n'avez jamais eu froid ?» répliqua le professeur. Le jeune homme répondit « En fait, monsieur, le froid n'existe pas. Selon la loi de la physique, ce que nous considérons comme le froid est en réalité l'absence de chaleur. Tout individu ou tout objet possède ou transmet de l'énergie. La chaleur est produite par un corps ou par une matière qui transmet l'énergie. Le zéro absolu, moins 462 degrés, est l'absence totale de chaleur. Toute la matière devient inerte et incapable de réagir à cette température. Le froid n'existe pas. Nous avons créé ce mot pour décrire ce que nous ressentons si nous n'avons aucune chaleur. L'étudiant continua. « Professeur, l'obscurité existe-t-elle ? » Le professeur répondit « Bien sûr qu'elle existe. » « Vous avez encore tort, monsieur, » répondit l'étudiant. « L'obscurité n'existe pas non plus. » L'obscurité est en réalité l'absence de lumière. Nous pouvons étudier la lumière, mais pas l'obscurité. En fait, nous pouvons utiliser le prisme de Newton pour fragmenter la lumière blanche en plusieurs couleurs et étudier les diverses longueurs d'onde de chaque couleur. Mais vous ne pouvez pas mesurer l'obscurité. Un simple rayon de lumière peut faire irruption dans un monde d'obscurité et l'illuminer. Comment pouvez-vous savoir l'espace qu'occupe l'obscurité ? On ne peut mesurer que la quantité de lumière présente. N'est-ce pas vrai ? L'obscurité est un terme utilisé par l'homme pour décrire ce qui arrive quand il n'y a pas de lumière. Finalement, le jeune homme demanda au professeur : « Monsieur, le mal existe-t-il ? » Maintenant incertain, le professeur répondit « Bien sûr, comme je l'ai déjà dit, nous le voyons chaque jour. C'est dans les exemples quotidiens de l'inhumanité de l'homme envers l'homme. C'est dans la multitude des crimes et des violences partout dans le monde. Ces manifestations ne sont rien d'autre que du mal. » L'étudiant répondit « Le mal n'existe pas, monsieur. Ou au moins, il n'existe pas de lui-même. Le mal est simplement l'absence de Dieu. Il est comme l'obscurité et le froid. » Un mot que l'homme a créé pour décrire l'absence de Dieu. Dieu n'a pas créé le mal n'est pas comme la foi ou l'amour qui existent tout comme la lumière et la chaleur, le mal est le résultat de ce qui arrive quand l'homme n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur. Il est comme le froid qui vient quand il n'y a aucune chaleur ou l'obscurité qui vient quand il n'y a aucune lumière. Le professeur s'assit ne sachant plus quoi dire. Le nom du jeune homme, Albert Einstein. Alors on attribue ces paroles à Albert Einstein, mais sans grande certitude. Mais il y a sûrement en plus dans cette démonstration quelques failles qu'on pourrait revoir. Mais c'est pas sur la controverse que je voudrais m'arrêter. Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est premièrement ce que l'on attribue à Dieu. Dans l'histoire, le professeur accuse Dieu d'avoir créé le mal. Et c'est souvent ce que les hommes font. Il accuse Dieu pour le mal qu'il peut y avoir dans le monde, mais à l'inverse, ne reconnaissent pas Dieu pour le bien qu'il peut y avoir dans le monde. Quand il y a des guerres, des catastrophes, des difficultés, on dit souvent « Mais qu'est-ce qui fait Dieu ? Où est-ce que Dieu est dans ces manifestations-là » Souvent, c'est ce que l'homme dit. Par contre, quand on voit la beauté de la création, la beauté d'un enfant, l'amour que peut avoir une mère pour son enfant, etc., on ne reconnaît pas Dieu non plus dans ces belles choses. En fait, on va accuser Dieu pour sa non-action, mais pas pour son action. Et à mon sens, Pour pouvoir accuser quelqu'un, il faut déjà que cette personne existe. Donc on ne peut pas accuser Dieu du mal si Dieu n'existe pas. Dieu existe-t-il ? Cette question, tout le monde se la pose et tout le monde continuera à se la poser. En effet, pour l'homme, il est difficile d'imaginer qu'il n'y ait pas de début ni de fin. Mais Dieu, lui, est hors du temps, parce qu'il existe depuis toujours. Et pour l'homme créé, il est difficile de concevoir Dieu, puisque nous sommes créés, et que pour nous, difficile de concevoir que quelque chose ou quelqu'un existe depuis toujours. On va prendre Romains 11 au verset 33. Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu ! Que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. En effet, qui a connu la pensée de Dieu, du Seigneur ? Ou qui a été son conseiller ? Qui lui a donné le premier pour être payé en retour ? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Oui, les pensées, les jugements, les œuvres de Dieu sont incompréhensibles à l'homme et on ne peut même pas percevoir, comprendre Dieu. Nous sommes infiniment trop petits pour comprendre Dieu. Et quand on pense à l'éternité, quand on pense à l'univers, eh bien on a du mal à percevoir ce que c'est. Même des fois, quand on pense à l'éternité, ce que sera la vie éternelle, on a du mal à le concevoir parce qu'on se dit « mais qu'est-ce qu'on va faire pendant l'éternité ?» C'est une notion qui pour nous est inconcevable. Parce que pour nous, les choses ont un début et elles ont une fin. Mais Dieu, lui, est au-dessus de tout ça et pour lui, les choses n'ont pas de fin. Il existe depuis toujours. Et donc s'il y a bien un sujet qui perdure, en tout cas un sujet de recherche qui perdure, c'est bien cette tentative de l'homme à prouver l'existence ou l'inexistence de Dieu. C'est d'ailleurs marrant parce que des fois les gens disent « on n'a jamais pu prouver Dieu ». Oui, mais on peut leur dire « on n'a jamais pu prouver que Dieu n'existait pas non plus ». Et on voit quand même malgré tout que de nombreux chercheurs, de nombreux scientifiques, à force de chercher l'inexistence ou de prouver l'inexistence de Dieu, deviennent même eux croyants. Parce que en fait, l'univers, le monde qui nous entoure, ne peut pas être la coordination et le résultat de si nombreux hasards. Il peut y avoir des hasards, il peut y avoir des choses qui arrivent comme ça sans, voilà. Mais il y a tellement de hasards dans le monde que de nombreux scientifiques arrivent à dire aujourd'hui qu'il y a un grand ordonnateur dans le monde et qu'il y a quelque chose qui a créé l'univers et que ça ne peut pas être simplement le fruit du hasard. Les Bogdanov avaient déjà écrit un livre, mais maintenant, j'ai vu la dernière fois, il y a de nouveaux scientifiques qui disent que voilà, le monde ne peut pas être le fruit du hasard parce qu'il y a trop de hasards consécutifs. La Bible, elle nous dit que personne n'a jamais vu Dieu parce qu'il se tient dans le lieu invisible, dans le lieu secret. Ça, on le lit dans Colossiens 1, 15 à 18. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Jésus a révélé Dieu. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Le trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc Dieu est là depuis toute éternité. Il a créé toute chose. Il s'est révélé par son Fils Jésus-Christ. Donc ce Dieu invisible s'est révélé en Jésus-Christ. Donc Dieu a créé les anges et les hommes par amour et il les a créés chacun libre de faire leur propre choix. Mais l'orgueil les a poussés à vouloir prendre sa place, à prendre la place de Dieu. Le froid et l'absence de chaleur. Donc comme on l'a vu, tout individu ou tout objet possède ou transmet de l'énergie. Et donc la chaleur produite par un corps ou par une matière transmet de l'énergie. C'est ce qui fait que la chaleur est. Donc pour qu'il fasse chaud, il faut qu'il y ait une source de chaleur. Alors il y a une petite expérience que j'ai vue lors de mes recherches, on prend une lampe de poche, on éclaire une map monde et on explique pourquoi à certains endroits du monde il fait plus froid qu'à d'autres endroits. Donc en fait, au pôle, les rayons du soleil, ils sont frappés à la surface de la Terre obliquement. Parce que si le soleil est ici et que la Terre est ici, voilà, ici c'est le centre, c'est l'équateur. Donc quand le soleil frappe, les rayons, ils arrivent obliquement. Ils n'arrivent pas perpendiculairement. Et donc l'énergie solaire, elle est plus diffuse, elle est plus dispersée qu'à l'équateur et c'est pour ça qu'il fait plus froid. À l'inverse, à l'équateur, les rayons du soleil, ils arrivent perpendiculairement à la surface de la Terre. Et c'est l'endroit où l'énergie solaire est le plus concentrée et donc il fait plus chaud à l'équateur. En fonction de là où on se trouve sur la Terre, eh bien, notre proximité avec le soleil induit la température. Et le soleil, c'est une source de chaleur qui me fait tellement penser à Dieu. Dieu, on nous dit dans la Bible que Dieu se révèle par sa création. On a parlé de l'univers qui est infini. Ça, c'est une manière dont on voit Dieu aussi. Dieu est infini et le fait que l'univers ne nous soit pas accessible, qu'il soit infini, ça me fait penser que Dieu est infini et qu'il ne nous est pas accessible dans le sens où il est plus grand que ce qu'on est capable d'imaginer. Et le soleil, c'est cette source de chaleur qui est incroyable. C'est-à-dire que il faut s'imaginer que le soleil serait éloigné de, je ne sais pas si ça se parle en centimètres ou en mètres, mais je crois que c'est même en centimètres, il suffirait que le soleil soit éloigné un petit peu pour qu'il ne fasse pas assez chaud sur la Terre et que du coup on ne puisse pas exister, qu'il n'y ait pas de forme de vie. À l'inverse, si le soleil était plus près, il ferait trop chaud et il n'y aurait non plus pas de forme de vie. Et donc, ça me fait penser aussi à autre chose, c'est que on ne pourrait pas se tenir près du soleil parce qu'il est trop chaud. Et de la même manière, on voit qu'on ne peut pas se tenir devant Dieu. Et donc ça m'a fait penser à l'histoire de Moïse. Moïse qui, on nous dit dans Exode 33, Moïse parlait face à face avec l'Éternel comme un homme parle avec son ami. Et Moïse a demandé à Dieu de voir sa gloire. Et Dieu lui a répondu, en Exode 33, versets 19 et 20, « L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. » Et donc le soleil est cette source de chaleur qui diffuse la chaleur dont on a besoin, mais devant qui on ne peut pas se tenir. Et donc du coup, ça me faisait vraiment penser à cette proximité qu'on doit avoir avec le Seigneur. Si on est trop loin du Seigneur, on ne jouit pas de la chaleur, du bénéfice de la chaleur que le Seigneur nous donne. Et si on est trop près, on ne peut pas être trop près, mais en tout cas, on ne peut pas le voir directement. Donc, ça m'a fait penser à ça. J'ai eu un autre passage aussi de Jonas, mais indirectement, ça ne colle pas avec ce que je voulais vous partager. C'était Jonas avec le ricin. Ou est-ce qu'il est énervé de voir que Dieu va quand même sauver les Ninivites et donc il va à l'est de la ville et il se place dans un endroit et en fait Dieu fait pousser un ricin qui lui donne de l'ombre et après par contre il fait mourir le ricin et donc là on voit la chaleur qui vient faire désirer la mort à Jonas. Et donc cette chaleur, tout ça pour expliquer, donc Dieu au travers de cette histoire va expliquer la miséricorde en travers des Ninivites et il va dire à Jonas oui ben j'ai le droit de sauver les Ninivites parce que je suis un Dieu miséricordieux et tu dois pas m'en vouloir pour ça. Mais bon, c'était une autre image de la chaleur que Dieu aussi peut propager quoi. Et donc cette chaleur que Dieu nous donne, eh bien je pense que nous avons le devoir de la propager, de la communiquer. On l'a chanté, nous sommes des petites lumières. Et notre petite lumière, elle doit briller dans le monde. Le psaume 104, verset 4 nous dit « Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. » Et je me dis des fois, on a cette image toujours de « Est-ce qu'on est une petite flamme qui brûle au milieu du monde dans lequel on est ? Est-ce que cette flamme, on la communique ? Est-ce qu'elle est communicative ? Est-ce que l'énergie qu'on dégage, elle est communicative à ces gens qui nous entourent ? Si elle ne l'est pas, je vous partagerai ce verset de 2 Timothée 1,6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de l'Esprit, le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Alors, là, c'est ranimer le don de Dieu, mais souvent on dit ranime la flamme. Et donc, c'était l'encouragement que je voulais vous donner aussi ce matin au travers de ce partage, de ranimer cette flamme que Dieu a mis dans votre cœur afin de pouvoir la communiquer à d'autres autour de vous. Parole, elle nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Et puis, ça m'a fait penser à autre chose, le corps chaud. Un corps chaud, c'est un corps vivant. Un corps inerte, c'est un corps froid. Et je me suis dit, quand on a la vie, on est chaud, on est bouillant. Et quand on est mort, on est froid. Psaume 39, verset 3 nous dit « Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait et la parole est venue sur ma langue. » Est-ce que vous avez cette flamme en vous qui brûle, qui vous consume afin de communiquer et de partager cette parole? L'obscurité et l'absence de lumière maintenant. Alors on va prendre un passage de Jean, prendre Jean 1. Jean 1, versets 5 à 9. Bon, je vais commencer dès le début. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Et c'était ça ma considération aussi ce matin, c'était de se dire, voilà, cette lumière qui est venue dans le monde, nous aujourd'hui on la reflète. On reflète la lumière de Christ que nous-mêmes nous avons reçue. Et on doit briller dans les ténèbres. La Bible, elle nous dit qu'on ne met pas la lumière en dessous d'une lampe, d'une table de chevet, parce que sinon elle n'éclairerait pas la pièce. Et donc cette lumière, elle doit briller devant les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dieu fait briller sa lumière sur nous, et nous, nous devons la faire briller. Et c'est marrant parce que c'est des passages qu'elle a partagés aussi, Pascal, ce matin. Elle a parlé beaucoup de lumière. Et dans la Bible aussi, on voit justement cette notion d'aveugle et de voyant. Quand on est aveugle, on a les yeux fermés, on ne voit pas. On est dans le noir, on est dans l'obscurité. Alors que quand Dieu ouvre nos yeux, on voit clairement et on peut voir la lumière et les formes qui sont distinctes. Et j'avais ce petit passage qui m'a bien édifié aussi. 2 Samuel 23, verset 4 nous dit... Et pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages, ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. Et donc ça me faisait penser aux rayons du soleil qui représentaient Dieu, qui venaient frapper la terre du potager et qui faisaient sortir les semis dont on allait jouir des fruits. Et je me suis vu comme une petite pousse sous la terre éclairée par le Seigneur. Et je me suis dit, voilà, si on est éclairé par le Seigneur chaque matin et bien nourri par la pluie du ciel que le Seigneur fournit aussi, eh bien cette pousse va lever et produire des fruits. Et donc c'est ce que je vous encourage ce matin, c'est vraiment à produire des fruits, à être cette chaleur, cette lumière que le Seigneur nous communique et que vous soyez communicatif de cette chaleur et de cette lumière autour de vous. La lumière, la chaleur, l'amour, c'est des choses qui se partagent, qui se communiquent, ça se vit ensemble. Et voilà pourquoi il faut aussi, c'est l'importance de se retrouver ce matin, d'être ensemble pour célébrer les gloires du Seigneur, parce que du coup, la gloire du Seigneur, parce que bah, c'est comme ça qu'on s'édifie mutuellement, comme on a pu le voir au début du culte. Maintenant donc, le mal n'existe pas. C'est l'absence de Dieu. Jésus a promis à ses disciples, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Le mal, en fait, c'est l'absence de Dieu parce que c'est la présence de Dieu dans nos vies qui nous libère du mal et qui nous font faire les bons choix. Le mal reste attaché à l'homme parce que l'homme est pécheur dans sa nature. Mais Dieu nous rend capable d'être un homme nouveau et donc de nous détacher du mal et du l'être mauvais que nous étions avant. D'ailleurs, pour les chrétiens, mourir, c'est aller vivre auprès du Seigneur. Et donc, on voit vraiment cette notion de près du Seigneur et la vie, près du Seigneur et la lumière, près du Seigneur et la chaleur, la lumière, près du Seigneur, eh bien loin est le mal. Et donc on voit aussi que dans la Bible, on le lit aussi ça, dans l'Apocalypse, on va lire le passage après, on lit que l'enfer, c'est l'absence de Dieu. Et donc le désir de l'homme et le désir de Paul aussi, c'est d'aller et d'être avec le Christ, parce que pour lui, c'est de loin ce qui est le meilleur. Et donc notre proximité avec la source de chaleur va induire la chaleur que nous-mêmes nous reflèterons. Et donc, je lis ce passage de Apocalypse 21, versets 1 à 4. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu, il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Et donc on voit vraiment que la présence de Dieu, c'est ce qui fait le bonheur de l'homme, et c'est ce qui fera aussi qu'on sera heureux sur terre et aussi après notre vie sur terre, quand viendra notre vie éternelle, parce que la vie éternelle, c'est d'être dans la présence de Dieu. Et donc cette nouvelle Jérusalem, on le voit, c'est avec le tabernacle du Dieu vivant qui sera présent au milieu de la ville, avec la présence de Dieu constamment. Comme dans le jardin d'Éden initialement, où Dieu, l'Esprit de Dieu planait sur le jardin d'Éden et qui venait discuter directement avec Adam et Ève, eh bien c'est quand on sera près de Dieu, et donc aujourd'hui c'est ce qu'il faut rechercher, à être près de Dieu. Cette proximité avec Dieu nous donnera justement, nous écartera et nous éloignera du mal. Et donc, le mal, c'est l'absence de Dieu, et je dirais aussi, c'est l'absence d'amour. Et je dois le reconnaître, c'est que bien souvent, on manque d'amour. Et toute la Bible, elle nous encourage à aimer. Mais l'homme a des difficultés à aimer, et c'est vrai que bien souvent, ben voilà, il y a la vie, il y a le mental, il y a l'état d'esprit, il y a la fatigue, il y a plein de choses. Et bien souvent, je pense qu'on manque d'amour. Et la Bible, elle nous encourage vraiment à manifester de l'amour, parce que si on n'a pas d'amour, on est comme des cymbales retentissantes, elle nous dit la parole de Dieu. Et donc il faut rechercher en premier lieu cette proximité avec Dieu qui va nous communiquer l'amour dont on a besoin pour partager aux autres. Et donc je voudrais faire une petite chose avec vous ce matin pour finir. Et je sais qu'il y a ce qu'on appelle la réunion de prière pour le faire, mais je voudrais dans un premier temps que chacun d'entre vous ferme les yeux. Et que dans un premier temps, on prie pour soi. C'est-à-dire que je vous encourage à prier pour vous, parce que la Bible, elle nous dit que on loue le Seigneur de ce que l'on est une créature si merveilleuse. Ses œuvres sont admirables et je le reconnais bien. C'est le psaume 139, verset 14. Donc dans un premier temps, je voudrais vraiment qu'on prenne une minute chacun personnellement pour prier et remercier le Seigneur déjà pour soi, pour la vie que Dieu nous a donnée, pour l'être que nous sommes, pour la merveille que Dieu a fait de nous. Et que Dieu aussi nous communique cette chaleur, cette lumière, cet amour dont nous avons besoin pour la communiquer aux autres. Alors je vous propose de faire ça pendant 30 secondes, une minute déjà, de prier pour soi. Ouais. On peut remercier vraiment le Seigneur pour l'être que nous sommes. Et dans un deuxième temps, j'aimerais vous encourager à prier pour quelqu'un d'autre. Donc toujours en fermant les yeux, en restant dans la prière. Peut-être quelqu'un qui est ici, quelqu'un que vous avez sur le cœur, quelqu'un qui n'est pas forcément présent, mais vous pouvez prier aussi pour votre voisin, si vous n'avez pas forcément quelqu'un en tête. Vous pouvez prier pour votre voisin, mais vraiment maintenant, dans un deuxième temps, priez pour les autres. Parce que, comme on l'a vu, c'est l'Église qui s'édifie mutuellement, et chacun a besoin d'une prière aussi, et cet amour, on le communique aussi au travers de la prière. Alléluia Seigneur Jésus, ouais, je veux te rendre gloire ce matin et te remercier vraiment Seigneur Jésus. Dans un premier temps, te remercier pour ma vie Seigneur Jésus, merci parce qu'elle me vient de toi. C'est toi qui donnes tout Seigneur Jésus et tu m'as voulu dès le ventre de ma mère Seigneur, tu m'avais conçu bien avant que mes parents aient le désir de me concevoir. Et je te remercie Seigneur Jésus de ce que chacun individuellement on peut reconnaître que nous sommes des créatures merveilleuses. Merci parce que nous avons l'image de Dieu en nous Seigneur Jésus et merci parce que tu veux te servir de nous chacun individuellement. Et Seigneur, je te remercie aussi pouvoir être ici ce matin devant mes frères et sœurs. Seigneur Jésus, je te remercie pour l'assemblée des frères et sœurs qui se trouvent devant moi. Je te remercie pour chacun d'eux, Seigneur Jésus, parce que oui, c'est une joie de pouvoir être ensemble, Seigneur Jésus, de pouvoir s'édifier mutuellement, de se retrouver dimanche après dimanche, Seigneur Jésus, et de pouvoir célébrer la gloire du Seigneur. Merci parce que, Seigneur, c'est vrai qu'on te voit à l'œuvre dans nos vies et que tu accomplis des choses magnifiques. Seigneur Jésus, je te prie que vraiment on puisse rentrer dans ces œuvres que tu veux pour nous. Et je te remercie pour cette lumière qui nous éclaire chaque jour, cette chaleur que tu nous communiques, Seigneur Jésus. Et je reconnais la nécessité de la proximité avec toi, Seigneur Jésus, pour bénéficier de cette chaleur, bénéficier de cette lumière, de cette source, Seigneur Jésus, que tu représentes. Merci parce que toi, tu veux nous dispenser tout ça à chaque instant, Seigneur Jésus. Et bien souvent, notre cœur est éloigné. Nous manquons bien souvent d'amour. Nous manquons bien souvent de zèle, Seigneur Jésus. Et je te prie pour que, Seigneur Jésus, vraiment, tu te manifestes encore dans nos vies, Seigneur, par ton esprit. Et que nous puissions encore œuvrer pour toi, Seigneur, de bien des manières, Seigneur. Ouais, merci pour être là ce matin, Seigneur. Merci pour... voilà, la communion fraternelle, Seigneur Jésus, et bénis-nous encore. Amen.